cours de philosophie éthique par le Père Marie-Dominique Philippe, le 20 décembre 1993 à Saint-Jauteur.
Si on essaie de comprendre la nécessité de cette vertu qu'on appelle la prudence, c'est pour maintenir l'unité profonde de l'activité morale en nous. C'est-à-dire voir comment l'union affective du premier amour, de l'intention de vie, le passage du bien à la fin, le passage de cette fin au moyen, et au moyen que la psychologie ne peut absolument pas nous donner. Et l'imaginaire nous fait croire ça. Vous voyez, c'est intéressant de faire cette petite étude et de bien voir l'influence de l'intelligence pratique, l'intelligence prudentielle, dans ce qu'elle a de plus radical. La première vérité pratique, c'est de faire que ce premier amour est véritablement intention de vie, ou devient véritablement une intention de vie. Il y a une première vérité pratique là. Ça se voit énormément dans le point de vue de la vocation du mariage. J'ai déjà cité cet exemple. Je l'ai connu, c'est pour ça que je le dis. Des jeunes qui se marient, le garçon étant beaucoup plus pieux que la fille qui ne pratiquait pas. Ils se marient pour la convertir. Et l'intention de vie vient transformer le premier amour. On ne se marie pas pour ça. Et c'est pour ça que j'ai... Personnellement, j'ai refusé de les marier. Parce que j'étais pas d'accord. Alors, si on est témoin du Christ, il faut qu'on soit d'accord. On considère qu'il y a là un mensonge. Et ça, c'est l'imaginaire qui fait croire que le point de vue surnaturel peut remplacer le point de vue naturel. C'est du fidéisme pratique. On a une très bonne intention, convertir quelqu'un, c'est le plus beau. J'ai envie de convertir cette personne parce que je l'aime beaucoup, je veux la convertir à tout prix. Donc je me marie avec elle. Pour être le plus proche possible d'elle. Et pour avoir une influence sur elle, la conduire. En lui donnant la main, la conduire à la messe tous les dimanches. Et ça craque. Nécessairement, au bout d'un an, ils sont venus me voir. Vous aviez raison. On ne peut pas rester ensemble. Mais confusion entre les deux. Alors de temps en temps, c'est l'intention de vie surnaturelle qui l'emporte sur le premier amour et qui nous fait croire qu'on aime. La plupart du temps, c'est l'inverse. Ça, c'est un cas très particulier. C'est un vieux garçon pieux. Restée fidèle, elle, évidemment. Elle était beaucoup moins coupable que lui. Elle s'est remariée, forcément, on ne peut pas être autrement. À 20 ans. Avec quelqu'un qui ne cherchait pas à la convertir. Mais qui l'aimait. Vous voyez, on doit réfléchir sur tout cela. Hein. Parce que, philosophiquement, on doit avoir un regard là-dessus. Où s'est fait l'erreur? Où y a-t-il erreur? Confusion entre le premier amour et l'intention de vie. C'est pas la même chose. Tout bien spirituel qui m'attire ne peut pas nécessairement être pour moi une fin. Et donc, engendrer en moi valider avec nous si vous choisissez un moyen dont vous êtes absolument incapable de réaliser. Vous avez commis une imprudence. Vous ne vous connaissiez pas assez. Et vous ne voyez pas assez vos limites. Quelquefois, il peut très bien y pas y avoir eu du tout d'imprudence. Parce que certaines choses ne peuvent s'expliciter que devant la réalité. Connaître ses limites, c'est pas commode du tout, il faut du temps avant de les connaître. Alors on a pu choisir un moyen qui était au-dessus de nos forces. En raison de notre générosité, en raison de l'amour qu'on avait pour Jésus, on a pris le moyen qui nous paraissait le plus adéquat à cet amour du Christ. Est-ce qu'il est aussi adéquat à vos capacités? Pour que ce moyen soit vrai, il faut les deux. Si vous n'avez qu'un seul aspect, ou bien facilité, ou bien héroïsme, on peut commettre une imprudence. Quelquefois, l'héroïsme est la seule vérité pratique. Dieu nous met quelquefois dans des circonstances telles, même au point de vue purement philosophique, que ça exige de nous un héroïsme. L'héroïsme fait partie des choses humaines. Faut pas dire a priori, moi je ne serai jamais héroïque, parce que je n'ai pas le coffre à ça. Ah, votre coffre, il grandit à fur et à mesure. Hein. Heureusement, du reste, il n'est pas fixé dès le berceau. On doit tendre vers l'héroïsme, pour tendre vers la contemplation. Alors là encore, l'imaginaire joue terriblement à l'égard des moyens pour augmenter les difficultés, pour augmenter, fasciner par rapport à la beauté de ce moyen choisi, à la grandeur de ce moyen choisi. De l'amour, c'est l'amour. Donc même comme ami, vous ne pouvez pas mesurer l'amour de votre ami à l'égard de quelqu'un d'autre. Et ne pouvant pas mesurer ça, votre conseil est toujours un peu extérieur. Dans quelle mesure le conseil des psychologues peut jouer? Il faut un petit nota bene là-dessus. C'est intéressant. Dans quelle mesure? On dit, allez voir un psychologue pour voir si vous pouvez aimer telle jeune fille. Est-ce que c'est un bon conseil de donner ça? Je ne crois pas. Parce que le psychologue est encore beaucoup plus extérieur à la vie.
L'ami, c'est déjà très difficile. Il faut toujours être très prudent. Il ne faut surtout pas projeter le jugement que vous avez vis-à-vis de telle ou telle personne que vous ne connaissez pas. C'est toujours très curieux. C'est une petite expérience de la vie, ça. Quand on est avec des jeunes et qu'on s'occupe de jeunes, et qui viennent vous présenter le choix de leur vie. On n'aurait jamais imaginé que ce soit comme ça. Et alors, au plan philosophique, donc au point de vue humain, c'est très intéressant de voir combien le cœur de l'homme, dans l'intention de vie, il y a une richesse étonnante qui s'actue devant tel ou tel moyen. Et c'est toujours la même chose que la vérité pratique est une vérité qui n'est pas totalement ce qu'on appelle aujourd'hui objectif. Puisque l'amour que vous avez pour quelqu'un est d'abord subjectif. Et c'est quand même cet amour-là qui sert de mesure. Et si vous mettez, vous, avec des gros pas objectifs, psychologiques, de regarder ça, dire c'est la psychologie qui donne l'objectivité, mais pas du tout. L'objectivité de l'amour, c'est la subjectivité. C'est sûr, il faut accepter qu'il y a un côté subjectif. Pourquoi avez-vous choisi tel ami plutôt que tel autre? N'essayez pas de justifier et accepter qu'il y a un aspect subjectif qui l'a emporté. Et on n'est pas honteux de ça. C'est normal. Parce que l'amour nous lie subjectivement. La source de l'amour, c'est là où l'aspect, vous voyez, la subjectivité transcendantale joue. Et elle joue là pleinement. Parce que c'est cette subjectivité transcendantale qui commande ce choix, et non pas l'objectivité, et non pas telle ou telle qualité. Et si on transforme notre subjectivité en objectivité, on est toujours à côté. Enfin, le passage du choix à l'exécution. À l'impérium. C'est encore la prudence. C'est même l'acte prudentiel le plus net. Certains ne passeront jamais à l'exécution. Dès qu'ils sont choisis, ils sont scrupuleux et reviennent. Et donc ils restent tout le temps. Et alors, ils augmentent par leur imaginaire. C'est l'exécution qui supprime l'imaginaire. C'est dans ce sens-là que pour dominer l'imaginaire qui est en nous, il faut s'appliquer à travailler coûte que coûte. Et si on ne peut pas faire autre chose, on fait du jardin. On se met au service de quelqu'un pour garder des enfants. Le réalisme qui est dans l'exécution. Si on ne passe pas à l'exécution, on ne touche plus le réel et on reste dans l'imaginaire. Et l'imaginaire nourrit l'imaginaire et nourrit l'imaginaire. Et c'est infini. C'est ça qu'on appelle des idées fixes. C'est l'imaginaire qui l'emporte. Et le grand ennemi de la prudence, c'est l'imaginaire. Il faut bien vous dire ça. Alors, il faut comprendre que la prudence permet ce passage à l'application inaborée. Il est temps d'agir. Il est temps de mettre tout l'accent sur l'exécution. Et si je ne mets pas l'accent sur l'exécution, rien ne se fera. Là, vous voyez l'aspect prudentiel. va jouer un rôle. L'aspect potentiel va permettre de comprendre, même au point de vue purement humain, que dans certains cas, je suis trop faible pour choisir. J'ai besoin de l'autorité. J'ai besoin d'un ami en qui j'ai toute confiance au point de vue humain. J'ai besoin d'un ami auquel je donne autorité. Tu me diras quand il vaut vert. Et à ce moment-là, on ne discute plus. Parce que si vous commencez à discuter, vous recommencez à supprimer l'autorité. Une autorité comme telle ne se discute pas. Vous êtes habitué à ça, du reste. Hein. Quand on reconnaît que quelqu'un a autorité, on obéit. On peut discuter après avoir obéi. Mais pas avant. Parce que si on discute avant, on supprime l'autorité. Ça, c'est très important pour que le passage à l'exécution soit extrêmement net et que l'intelligence pratique prudentielle retrouve tout son réalisme. C'est dans l'exécution que l'intelligence prudentielle trouve tout son réalisme. Tant qu'elle ne touche pas, fait ceci, elle ne touche pas le réalisme. Elle reste encore dans l'intérieur. Alors, je demande conseil à l'un, je demande conseil à l'autre. Les deux donnent des points de vue tout à fait différents. Ah, bon, alors, on fera ce que bon nous semble. Oui, c'est très facile de supprimer l'autorité. C'est très facile d'opposer. Et par le fait même de nous libérer, soi-disant, on se libère pas du tout. Parce qu'il y a beaucoup de cas où on ne peut s'en tirer qu'en s'appuyant sur l'autorité d'un ami. De quelqu'un qu'on considère comme un ami qui nous aide, parce qu'on en a besoin. On ne peut pas arriver autrement. Et ça, c'est encore la prudence. La prudence demande de demander conseil. La prudence demande, quand on est trop fragile, quand on est trop influençable, de s'appuyer sur quelqu'un qui est un ami auquel on donne autorité pour l'exécution. Le passage à l'exécution est une chose tellement difficile quand on est fragile, quand on est trop sensible. Une chose tellement difficile qu'on a besoin de s'appuyer sur quelqu'un qui nous permet de nous jeter à l'eau. Parce que c'est se jeter à l'eau, l'exécution. On a tous vu ça, des personnes qui savaient parfaitement tous les exercices de la natation et qui n'ont jamais se jeter à l'eau. Il faut que quelqu'un les pousse. Allez, c'est la même chose pour ceux qui descendent en parachute. C'est très curieux, hein, le passage à l'exécution est quelque chose de très très spécial et très important. Et ça, c'est l'intelligence pratique prudentielle qui nous fait comprendre que c'est nécessaire de passer pour l'exécution. Et l'obéissance est au niveau de l'exécution. Et donc, on voit que, étant donné la fragilité de quantité d'êtres aujourd'hui, leur amour n'est pas assez fort. Leur amour est trop contaminé par l'imaginaire. Leur amour étant trop contaminé par l'imaginaire, ils n'arrivent plus à passer l'exécution. Si leur amour était plus fort, ils passeraient à l'exécution. Parce que l'amour demande de passer à l'exécution. De l'union affective à l'union effective. Mais je crois qu'il faut toujours bien voir tous ces passages que fait l'intelligence pratique. Et c'est l'intelligence pratique qui fait ça. Ce n'est pas la volonté, ce n'est pas l'amour. C'est l'intelligence pratique qui passe de l'union affective à l'union effective, dans le réalisme de la vie. Autrement, on confond. Et on restera dans son monde imaginatif, immanent, sans voir le réel. Et l'imagination est une chose extraordinaire. Comme l'imagination est puissante en nous. Comme l'imagination peut nous faire croire que l'imaginaire est le réel. Il faut l'intelligence. Ce sont des phares à brouillard. Il permet au milieu de tout l'imaginaire de redécouvrir le réel. Et alors la prudence, c'est de lutter constamment contre tous ces niveaux imaginatifs. Premier niveau, le bien, premier amour et l'intention de vie. Deuxième niveau, l'intention de vie et les moyens. Troisième niveau, les moyens et l'exécution. Ça, c'est la prudence. C'est l'intelligence prudentielle. L'intelligence est liée à ce premier amour, qui part de ce premier amour. Et l'imaginaire empêche de voir ces différents niveaux et de nous faire glisser tout simplement. Non, je crois, je dis je crois parce que je ne l'ai pas vérifié à titre plus d'intuition, que l'encyclique du pape montre toutes les erreurs des théologiens en fonction de la philosophie qu'ils se servent, qui empêche de voir la plénitude de l'acte moral, passage de l'union affective à l'union affective. Alors, on ramène tout l'acte moral à l'union affective. Il suffit d'aimer. Il suffit d'être rectifié par rapport à la fin. Les moyens, ça n'a aucune espèce d'importance. C'est l'intention qui suffit. Il y a quelque chose de juste, puisque c'est l'intention qui est principale. Et elle exige de s'incarner à travers des moyens. Et il y a une vérité au niveau des moyens, comme il y a une vérité au niveau de l'intention de vie. Ou bien, au contraire, on ne regarde que les moyens, et on tombe dans l'efficacité pure. Et le Saint-Père dénonce que l'erreur est autour de la liberté et de la conception de la liberté. Tous ces théologiens n'ont pas une conception vraie de la liberté, parce qu'ils empruntent une conception de la liberté à telle philosophie. Et c'est vrai que la prudence agit toujours librement. Donc il y a un lien entre prudence et liberté. Le libre arbitre. C'est la prudence qui me permet de voir où se trouve l'acte libre. Et comment l'acte libre doit se développer. Alors, ce qui est très fort dans cette encyclique, c'est que le Saint-Père fait quelque chose d'analogue à son encyclique sur le travail. Quand il montrait l'erreur du capitalisme et l'erreur du marxisme, qui était la même, l'oubli de l'homme. Ici, il montre que la psychologie, qui ne regarde que les moyens, l'efficacité et certains aspects qui ne regardent que l'intention, la finalité, ont la même erreur parce qu'ils séparent la liberté du bien. Et je crois que c'est ça qui est la clé. Mais pour ça, il faudrait pouvoir la relire ensemble et puis mettre des points. Vous pouvez le faire, il faut le faire. Donc vous voyez comme c'est important, point de vue philosophique, de comprendre la place et la naissance de la vertu de prudence. J'allais dire, toutes les erreurs modernes sur l'action morale proviennent d'une non-connaissance exacte de l'acte prudentiel. Et toutes les confusions qu'on peut faire entre la philosophie éthique et la psychologie proviennent d'une non-connaissance de l'acte prudentiel. ne voit pas ce qu'est la vérité pratique. Alors vous voyez que la vérité pratique a quatre niveaux. Au moins trois. L'intention de vie par rapport au premier amour. Les moyens par rapport à l'intention de vie. L'exécution par rapport à l'intention de vie. Par rapport au choix. Et puis on pourrait dire, une fois qu'on a exécuté l'application, on a décidé, mais il faut encore exécuter. Donc il faut appliquer. La décision relève de l'intelligence. Mais être tout attentif à ce qu'on va faire et accepter de plonger, ça c'est la volonté. Je veux réussir. Je veux aller jusqu'au bout. Donc, vous voyez, il y a de fait quatre niveaux de liberté. Au niveau prudentiel. Et il y a quatre niveaux de vérité au niveau prudentiel. Et ces quatre niveaux sont abîmés par la philosophie contemporaine. Et ces quatre niveaux employés, utilisés par le théologien, conduit à une théologie morale qui n'est plus évangélique, qui n'est plus conforme à ce que l'Évangile nous montre. Et l'Évangile nous montre d'une façon concrète ce qu'est l'acte moral dans la rencontre du jeune homme riche avec Jésus. Sa mère commence par là, et tout dit. Alors je peux voir l'inverse. Je peux voir les quatre niveaux qui m'empêchent de comprendre de la manière la plus parfaite ce qui nous est dit dans l'Évangile. Alors évidemment, au plan philosophique, comprenez bien, au plan philosophique, la vérité est donnée à l'intérieur même de l'expérience. Voir les erreurs des théologiens, c'est pas ça qui montre que je suis dans la vérité. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'une philosophie de la prudence permet de comprendre l'encyclique du pape. Pour moi, c'est toujours des critères extrinsèques, mais qui sont extrêmement importants. Si tout ce que je faisais au point de vue philosophique ne me permettait absolument pas de comprendre l'enseignement actuel de l'Église, je dirais, je dois être un peu à côté. J'ai dû prendre une déviation. Tandis qu'au contraire, si je vois que la connaissance de l'homme que j'ai, par une philosophie réaliste, me permet de mieux comprendre l'enseignement actuel du Saint-Père, c'est une confirmation que ma philosophie est saine. Évidemment, je ne peux pas m'en servir à d'extra. Je ne peux pas dire, vous voyez, ma philosophie est vraie puisque ça me permet de lire les documents d'Église. Alors on dira, mais la philosophie n'est pas faite pour ça. Premièrement, c'est très vrai. La philosophie est faite premièrement pour être dans la vérité. Mais si j'ai un éclairage supérieur à la philosophie, qui est la foi, je peux très bien me dire, à ma recherche philosophique. Et ce critère extrinsèque à la recherche philosophique, c'est d'être en conformité avec l'enseignement actuel de l'Église. C'est extrinsèque, je le sais, mais pour moi, qui suis philosophe et croyant, c'est énorme de maintenir l'unité dans la diversité. Il y a deux points de vue différents, la foi et le point de vue philosophique. Mais c'est capital de voir que cette foi, cette recherche de foi, cette recherche de vérité philosophique n'est pas en contradiction. Au contraire, ça se rejoint. Donc ça confirme bien que c'est le problème de la prudence qui aujourd'hui est battu en brèche. Philosophie fausse, qui ne savent plus ce que c'est que la liberté. de morale est structuré par la prudence. Tout acte, par un acte prudentiel, est structuré par cette intelligence pratique et demande d'être dans la vérité. Alors, si vous avez des difficultés par rapport à cela, réfléchissez-y et puis notez ces difficultés. Parce que c'est toujours très important de voir de la façon la plus claire ce que représente cette intelligence pratique. Cette petite sagesse pratique. Alors, j'acquiers la prudence par des actes prudentiels. Et ces actes prudentiels se font constamment dans la lutte. Où je lutte contre l'imaginaire. La folle du logis. L'imaginaire en soi n'est pas mauvais. Mais l'imaginaire constamment me séduit. Procédé de séduction. Séduction chez les intellectuels. Séduction chez les artistes, qui n'est pas la même séduction. Séduction chez les affectifs. Il y a une séduction affective, il y a une séduction intellectuelle, il y a une séduction artistique. Et ça, c'est l'imaginaire qui se roule tout dans la suite. L'imaginaire est fait pour séduire. C'est sa seule force. Tandis que l'intelligence est faite pour la vérité. Je ne veux pas être séduit. Parce que quand je suis séduit, je suis mené par la beauté. Je veux être dans la vérité pour que ce procédé de séduction ne me commande jamais et ne soit jamais pour moi ce qui est ultime. Je passerai la fois prochaine, s'il n'y a pas de question, tout de suite, à la justice. De la nécessité de la justice. En vue toujours de l'amour d'amitié.